C'est devant toi le Seigneur de gloire, devant toi le Sauveur de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. C'est devant toi dont le règne est éternel, dont la royauté dure à toujours. C'est devant toi dont la parole est créatrice. Oui, c'est devant toi qui s'appelle fidèle et véritable que nous nous tenons avant de nous asseoir à tes pieds afin de recevoir ta parole. Puisses-tu, Seigneur, poser ta main sur chacun de nous et rendre nos cœurs réceptifs, capables d'accueillir ta parole, mais aussi capable de la mettre en pratique. Merci pour tout, pour cet amour que tu as, pour l'œuvre que tu poursuis dans chacun de nous, pour ce travail de régénération que tu accomplis parmi nous, en nous et à travers nous. Merci, ô Dieu, d'être cette lumière qui nous éclaire dans ce monde de plus en plus plongé dans les ténèbres du péché. Merci d'être ce feu qui brûle en nous et qui éloigne de nous toute froideur, Seigneur, quelle qu'elle soit. Oui, merci d'être cette force qui nous anime et qui nous permet d'avancer, d'aller à contre-courant, Seigneur, des choses de ce monde. Oui, merci d'être celui en qui nous sommes plus que vainqueurs. Parle-nous et dépose ta parole dans nos cœurs. Souviens-toi de ton serviteur. Il est appelé à être, Seigneur, qu'un simple outil entre tes mains pour l'édification de ton peuple, pour la croissance de ces âmes pour lesquelles tu es mort. Alors utilise-le. Transforme ses faiblesses en force. Donne-lui d'être sensible à ta voix et qu'il proclame ta parole avec force, avec puissance, avec conviction, avec persuasion. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. J'aimerais revenir sur notre thème de la fois dernière. C'était au mois de juillet, sur la nécessité d'être des outils entre les mains du Seigneur dans notre génération, d'être des outils pour la bénédiction de l'Église, d'être des outils qui soient des solutions aux problèmes des autres, d'être des outils, des instruments entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour les saluts des perdus, pour la délivrance des captifs, pour la restauration de toutes ces vies qui sont abîmées, détruites par le péché. Oui, la nécessité d'être des instruments dans notre génération, dans notre ville de Kinshasa, des outils de changement, de transformation, car notre Église en a besoin, car notre ville de Kinshasa en a besoin, notre pays en a besoin, le monde a besoin, oui, de ces hommes et de ces femmes qui soient de véritables outils, des instruments de Dieu dans notre génération. C'est donc le chapitre 2, être l'instrument de Dieu dans notre génération. Au mois de juillet, en introduction à ce message, nous avions pris le cas d'un homme, qui passe inaperçu, puisque sa vie et ses exploits ne nous sont racontés que par et dans un seul verset de la Bible. Et c'est dans le livre des Juges que le nom de cet homme apparaît. Mais malgré cette brièveté, cette apparition brève, plus que brève, cette brève introduction dans l'histoire de la révélation biblique, eh bien, cet homme a marqué à tout jamais l'histoire de la révélation et sa vie parle encore aujourd'hui. Car avec un seul bâton, un aiguillon à bœuf, ce bâton pointu utilisé autrefois et même aujourd'hui pour diriger les bêtes des traits ou les bêtes des sommes, comme les bœufs, comme les chevaux, comme les mulets, avec un seul aiguillon à bœuf, cet homme a vaincu 600 Philistins. Il a relevé un défi incroyable, un défi qui défie toute logique cartésienne. Cet homme n'est autre que Shamgar. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre homme qui lui aussi va être un instrument dans sa génération, qui lui aussi à un moment bien précis de l'histoire d'Israël, alors que ce peuple faisait face à toutes sortes d'adversaires, et en particulier les Philistins, avec leurs géants, leurs héros, leurs champions, à savoir Goliath, Dieu va trouver un homme, un jeune, sans aucune expérience militaire, sans aucune connaissance quant au maniement des armes aussi bien défensives qu'offensives, un homme qui n'avait d'autre expérience que celle de veiller sur le troupeau de son père, le menu bétail. Et pourtant Dieu va le trouver. Et pourtant Dieu va faire de lui un instrument dont il va se servir pour manifester sa gloire, la victoire parmi le peuple de Dieu. Cet homme, vous l'avez deviné, n'est autre que David. David de Bethléem. David, simple berger, mais qui cependant, entre les mains du Seigneur, va devenir une arme fatale pour ce géant, pour cet homme qui s'est fait un malin plaisir à un moment de l'histoire d'Israël, de défier le Dieu d'Israël, de déshonorer, de mépriser son peuple. Pour avoir une idée, nous allons lire quelques passages. Nous sommes d'abord dans 1 Samuel chapitre 16. C'est toujours important de voir où tout a commencé avec ce jeune homme, que rien n'est destiné, si ce n'est de terminer comme berger. Personne ne pouvait miser sur lui que ce garçon d'une fratrie de 8 garçons, le tout dernier, pouvait un jour marquer l'histoire d'Israël et avoir une vie qui parlerait des siècles et des siècles et des siècles plus tard. 1 Samuel 16, les deux premiers versets, nous lisons. Le Seigneur ou l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ?» En effet, Saül vient d'être rejeté après une vie marquée par la désobéissance, une vie marquée par la légèreté, par l'incurie, par un esprit de rébellion vis-à-vis du Seigneur. Il est rejeté et cela va entraîner l'homme de Dieu dans une sorte de deuil. Il ne comprend pas comment un homme qui lui aussi est parti de nulle part, appartenant à la plus petite tribu d'Israël, c'est-à-dire la tribu de Benjamin, comment Dieu va choisir ce garçon-là, il va jeter son dévolu sur lui pour faire de lui le premier roi d'Israël. Il avait tout l'avenir devant lui, il avait toute l'occasion d'écrire les plus belles pages de l'histoire d'Israël, il avait tout le temps de marquer à tout jamais l'histoire de la révélation biblique, mais malheureusement, il va se compromettre et le Seigneur va le rejeter. Et c'est là qu'il va se trouver celui qui allait, eh bien, prendre la place du roi rejeté. Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu pour moi un roi parmi ses fils. Alléluia. J'ai vu. Gloire au Seigneur. Il a vu. Et le verset 13, 11 à 13, je vous passe les détails. Samuel va prendre sa corne. Il va remplir cette corne d'huile d'onction. Il va descendre à Bethléem. Il va faire venir la famille d'Isaïe, donc le père de David et de ses frères Eliab, Shama, Abinadab. Et puis là, eh bien, il savait que c'est de cette famille-là que devait venir le prochain roi d'Israël. Le roi demande à ce que Isaïe fasse venir tous ses enfants. Évidemment, il avait 3 enfants qui étaient dans l'armée de Saül. Il fait venir, c'était Eliab, Abinadab, Shama. Il commence par ces trois-là. À mon avis, il s'est dit, ben, un roi est censé conduire son peuple à la guerre, oui ou non? Un roi est censé avoir de l'expérience. Et mes trois gamins-là, eh bien, ils ont déjà de l'expérience. Il fait passer le premier, Eliab. Et Samuel va tomber dans le panneau du jugement humain. Il va agir de manière cartésienne. Quand il voit cet homme Eliab, il dit certainement, le Messie du Seigneur est ici devant lui. Il s'attendait à ce que le Seigneur lui dise, oui, Samuel, tu as bien vu. Tu as vu sa taille, tu as vu son allure, tu as vu sa prestance. Non, le Seigneur lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je le rejetais. Il ne s'agit pas de considérer ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à l'allure extérieure, oui ou non? Eh oui, mais le Seigneur regarde au cœur. Ok. Deuxième, Abinadab. Il le fait passer, le Seigneur dit, lui non plus. Troisième, Shama, lui non plus. Même le papa s'est dit, mais si les trois là, avec toute l'expérience militaire qu'ils ont, ne peuvent pas recevoir l'onction, qui d'autre? Samuel dit à Isaïe, verset 11, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit. Ah, le fiston. Mais, il fait paître le troupeau. C'est-à-dire, il n'est pas là. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux, une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Alléluia. C'est lui. Pas quelqu'un d'autre. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour et dans la suite. Oh, alléluia. Et après avoir accompli la mission reçue de la part du Seigneur, le prophète, eh bien, va se lever et s'en aller. Donc voilà comment tout commence. Voyez ce jeune homme, un jeune berger, sans aucune expérience militaire, sans avoir eu l'occasion de diriger. Il devait être un suiviste, car généralement, dans une grande famille, le tout dernier est toujours écrasé par les grands frères. Voilà. Souvent, on le considère comme étant le plus gâté. Voyez? Et donc, vous imaginez bien, après sept garçons, il y a un tout petit huitième qui arrive. Et on peut comprendre pourquoi son papa lui avait donné la tâche d'aller garder les menus bétail. Et celui que le Seigneur choisit. Et celui qui va devenir l'instrument entre les mains de Dieu pour accorder la victoire à Israël. Alléluia. Il va affronter celui qui nous est révélé comme étant le champion, c'est le terme utilisé en hébreu, le champion des Philistins, le héros des Philistins. Un homme qui, par son allure, sa prestance, son apparence, terrifiait tous ses adversaires. Il était grand. Nous allons examiner un tout petit peu cette histoire de David qui va affronter Goliath, le géant philistin, regarder de plus près cette scène, et puis de voir comment, mes amis, Dieu peut utiliser n'importe qui pour relever n'importe quel défi. Car trop souvent, nous regardons aux moyens. Trop souvent, nous regardons à nous-mêmes. Et nous nous disons, nous n'avons pas suffisamment de moyens. Et donc, c'est impossible de relever tous ces défis. Mais pour Dieu, les moyens que nous avons ne comptent pas. Ce qui est important, c'est notre vie. Shamgar, lui aussi, mes amis, a utilisé son bâton. Car dans le plan de Dieu, l'homme occupe une place importante. L'homme reste le choix divin. L'homme reste la méthode et la stratégie de Dieu. Alors que nous cherchons dans la plupart des cas des moyens, des voies et des moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu, alors que nous sommes toujours à la recherche de stratagèmes, de toutes sortes de techniques pour attirer les gens à Dieu, lui, Dieu, est à la recherche d'un homme. C'est ainsi que ce gris-là, comme nous l'avons vu, que nous trouvons dans Ézéchiel, ce gris retentit encore aujourd'hui. Quand il regarde l'état immoral, l'état terrible de notre ville de Kinshasa, quand il voit comment nous assistons à l'écroulement, à l'érosion des valeurs judéo-chrétiennes, quand nous voyons, mes amis, comment tout se passe dans notre chère ville, cette ville que nous appelions autrefois Kin la Belle, eh bien, laissez-moi vous dire, quand le Seigneur voit toute cette décrépitude morale, cette déliquescence morale et spirituelle, eh bien, il se lève pour chercher l'homme ou la femme qu'il va utiliser pour être, non pas pour proposer des solutions, mais pour être lui-même ou elle-même la solution ou une partie importante de la solution. Et c'est ainsi que Shamgar, avec son bâton à bœuf, a pu terrasser 600 Philistins. Comment est-ce possible? Eh bien, l'étymologie, le sens, la signification de Shamgar en hébreu, comme nous l'avons vu, c'est épée. Donc son nom est épée. Si pour Shamgar, l'aiguillon à bœuf a été un instrument dont il s'est servi pour tuer, pour abattre 600 Philistins, eh bien pour Dieu, c'est Shamgar lui-même qui était son instrument. Oh, alléluia. La puissance n'a pas résidé dans cet aiguillon à bœuf. Comme pour Moïse, qui avec son bâton avait ouvert les eaux de la mer des jonques. La puissance n'a pas résidé dans le bâton. Pour Moïse, le bâton était l'instrument. Mais pour Dieu, Moïse était l'instrument. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans chaque génération, le Seigneur voudrait faire lever des hommes et des femmes qu'il va tailler, qu'il va façonner, qu'il va modeler pour en faire des outils pour le salut des uns, pour la délivrance des autres, pour la bénédiction des uns et des autres. L'homme, stratégie de Dieu. Et c'est ce qui va arriver avec David. Ses frères, qui faisaient partie de l'armée d'Israël, sous la conduite du roi Saül, étaient en guerre contre les Philistins. Ils se sont retrouvés les uns en face des autres. D'un côté, l'armée d'Israël sur une montagne, et de l'autre côté, l'armée des Philistins. Et entre les deux, une vallée, la vallée du Térébinthe ou la vallée d'Ela. Et les deux armées se regardaient comme des chiens de faïence. Personne n'osait descendre, car c'était toujours un risque. Ils étaient les uns sur le flanc d'une montagne et les autres sur le flanc d'une autre montagne. Et entre les deux, il y avait la vallée. Et là, la parole de Dieu nous dit, du côté des Philistins, ils avaient un homme. Un homme, mes amis, d'une taille extraordinaire. Presque 3 mètres. Un homme qui était considéré comme étant le champion des Philistins. Comme étant le héros des Philistins. Cet homme s'appelait Goliath. Oui, Goliath. Cet homme mesure presque 3 mètres. Mettez-vous à la place de Saül, à la place des Israélites, de voir cet homme qui se détache de la ligne des Philistins, qui descend et qui se met à narguer Saül et son armée. La Bible nous dit qu'il a un casque de bronze sur sa tête. Ah oui, à l'époque, on se battait avec les épées, avec des lances, des javelots. Et donc, il fallait protéger la tête par un casque de bronze. Et lui, il en avait. Il était revêtu d'une cuirasse, comme n'importe quel guerrier à l'époque. Il avait aux jambes de jambières de bronze pour protéger ses jambes, car toutes les parties du corps étaient exposées. Donc, il fallait une protection maximale. Et puis, il avait un javelot en bronze, en bandoulière. Et puis devant lui, il avait quelqu'un, un porte-bouclier, qui portait le bouclier pour lui. Rien que son armure, rien que ce qu'il avait sur lui, eh bien, faisait reculer tous ses adversaires. Et donc, un géant imposant. Et pendant 40 jours, matin et soir, cet homme considéré comme héros par son peuple, les Philistins, cet homme considéré comme leur champion, s'avance chaque jour, matin et soir, et méprise le peuple de Dieu, et jette l'opprobre sur Israël, et jette les déshonneurs, toise, regarde avec dédain, avec mépris, le roi Saül et toute son armée. Ensuite, il lance un défi. Il demande à Israël de se choisir un homme apte à s'engager en duel avec lui. Quelle audace, quelle toupée, hein? Quel orgueil, quelle arrogance. Il dit, vous là, peuple esclave de Saül, vous passez votre temps pour rien. Si vous vous engagez dans cette guerre, eh bien, nous vous écraserions. Alors, pour vous épargner un peu une lourde défaite, choisissez un parmi vous qu'il vienne m'affronter là, dans la vallée. Choisissez. Matin, soir, il lançait ces paroles terribles, dures. Et entendant les paroles de Goliath, la parole de Dieu nous dit que Saül et tout Israël étaient effrayés, terrifiés, pétrifiés et remplis de peur. Il reculait quand lui descendait seulement. Rien que son ombre, rien que le petit mouvement qu'il faisait, eh bien, s'entraînait de remous parmi le peuple d'Israël. Que faire dans cette situation? On a affaire à un géant. Et derrière le géant, une armée bien équipée. Comment faire pour relever ce défi? Équation insoluble pour le roi Saül. Problème insoluble pour Israël. Que faire? Mes amis, le Seigneur a toujours une flèche dans son carquois. Le Seigneur n'est jamais à court de solutions. C'est pourquoi il ne faut jamais croire ou essayer de faire chanter le Seigneur en disant, d'ailleurs, si tu ne m'envoies pas, tu verras. Non. Qui es-tu, pauvre pécheur? Voyez-vous, même un prophète comme Élie, à un moment, il s'était plaint. Il dit, Seigneur, je suis resté le seul en Israël à proclamer le message de ta parole avec vigueur, avec force, sans compromission. C'est le seul. Le Seigneur dit, tempère un peu tes propos. Il y en a encore d'autres. Combien? 7000. Vous voyez? Dieu a toujours une solution. Alléluia. C'est alors que David arrive de Bethléem. Et il se porte volontaire, après avoir entendu tous ces propos blasphématoires, déshonorants. Et il veut affronter le géant philistin, le champion, le héros des Philistins. Lui, David, fils d'Isaïe, lui, jeune berger, sans aucune expérience militaire, sans aucune connaissance quant à la manière de manier les différentes armes, lui est prêt à relever le défi. Ça parut un peu audacieux aux yeux même de ses frères. Et d'autres, il dit, mais qui est ce gamin? Pour qui se prend-il? Voyez. Et pourtant, David, mu, mes amis, par une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël, et porté par une confiance, une grande confiance dans le Seigneur, ce jeune berger va se lancer dans la bataille. Il va aller affronter le géant Goliath. David savait que si Goliath était considéré comme étant le héros des Philistins, considéré comme étant le champion des Philistins, eh bien le champion des champions, le plus grand champion, les héros des guerres, le guerrier redoutable, était parmi le peuple d'Israël. Et donc il n'était pas question de reculer, de ne pas se laisser impressionner par cet homme, par ces géants. Le Seigneur, le Dieu des armées, était avec eux. Alors tournons-nous maintenant vers la confrontation, vers l'affrontement entre ce jeune berger, entre ce jeune homme et le géant philistin. Quand il arrive, il voit que tout le monde est là, presque tétanisé, pétrifié, rempli de peur. Personne n'ose relever ces défis. Tout le monde accepte les insultes. Tout le monde accepte l'humiliation. Et lui dit, il n'y a pas question. Comment cet incirconcis peut jeter le déshonneur, peut toiser le Dieu d'Israël, peut regarder avec dédain, avec mépris, le peuple de Dieu? Il va trouver le roi. Il dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de cet homme. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ces Philistins. Quelle audace! Le monde appartient à ceux qui savent se faire violence. Il n'a pas regardé aux Philistins. Ses yeux sont restés braqués sur celui qui était au-dessus du Philistin, sur son héros à lui, sur son champion à lui, à savoir le Seigneur des armées. Le roi considère ce jeune homme fougueux. Il le regarde et il lui dit, « Fils, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Regarde ton âge. » Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Vous avez certainement entendu les exploits de Goliath dans d'autres guerres. Mais David dit, c'est rien tout cela. Il explique au roi certaines expériences qu'il avait eues à faire avec le Seigneur. Il lui dit, je sais de quoi je parle. Ô roi, je porte à votre connaissance que j'ai eu affronté l'ours, j'ai eu affronté le lion, mais à chaque fois le Seigneur m'a assisté. N'oubliez pas que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et à chaque fois le Seigneur m'a aidé, à chaque fois il m'a délivré. Et donc, je suis prêt à relever. Il savait que peu importe l'adversaire devant, avec Dieu, il y avait toujours une solution. Alléluia. Alors Saül dit, mais écoute, jeune homme, va et que le Seigneur soit avec toi. Oh, c'est simplement une confession qui ne relevait pas d'une foi ferme. Autrement, lui-même aurait eu l'occasion de mettre cette foi en action et d'affronter Goliath. Va, que le Seigneur soit avec toi. Et puis, il dit, attends, jeune homme, tu vas affronter cet homme-là. Oui, mais tu ne peux pas aller comme ça. Regarde, lui, il est bien armé. Regarde son armure. Javelot, casque sur la tête, une cuirasse, l'épée, la lance, le javelot, tout ce que vous voulez. Attends, petit, viens. Saül prend ses propres habits militaires. Il revêt David. Il prend un casque de bronze, comme pour dire, ah, tu dois protéger la tête. Tu dois protéger tout ton corps. Et puis ensuite, David prend évidemment l'épée de Saül. La même épée que Saül avait, qui n'a servi à rien. Cette fois-ci, ben, dans l'équipement que lui, Saül, cède à David, il y a aussi l'épée. David, de l'eau, s'il vous plaît. C'est aussi spirituel, ne vous en faites pas. Il fait toute chose bonne en son temps. David essaye cet équipement. Évidemment, tout ça, dans cet équipement, il n'est pas à l'aise. C'est la toute première fois qu'il essaye tout ça. Il essaye de marcher, il n'arrive pas. Enfin, car il n'était pas entraîné. C'est le mot utilisé. Il n'était pas entraîné. Quand on recrutait les soldats, eh bien, on les entraînait à porter ces équipements, à savoir comment se comporter, comment manier les différentes armes. Mais lui n'avait pas été entraîné. Alors il dit au roi, je ne peux pas marcher avec tout cela. C'est lourd pour moi, je ne suis pas entraîné. Je n'ai jamais manié l'épée. Et tout ça m'avale. David s'en débarrasse. À la grande stupéfaction du roi. Il dit, mais ce garçon est fou. Comment va-t-il affronter cet homme-là sans aucune arme? Que fait-il? Eh oui, Saül, ce jeune homme sait ce qu'il fait. Oh, alléluia. Tu lui as cédé ton costume. Il a essayé cela, ça n'a pas marché. Quelquefois, nous essayons d'en rentrer dans le costume des autres. Nous essayons de copier ce que les autres font. Nous pensons que la force se trouve dans ce qu'ils utilisent. Non, la force est dans l'homme. Peu importe l'outil entre les mains de l'homme. Il se débarrasse de tout cela. Il va prendre ce qu'il a toujours utilisé en tant que berger. Il prend son bâton. Il ramasse 5 pierres bien polies là dans la vallée. Il les met dans son sac de berger, dans sa gibecière ou sa besace. Il prend sa fronde. Il avait l'habitude d'utiliser la fronde. Et d'ailleurs, ça s'est fait encore aujourd'hui. Voyez-vous, là où les gens élèvent, ont des troupeaux, quand ils font sortir le troupeau pour les amener pâturer quelque part, ils ont la fronde et des pierres. Comme ça, s'il y a un danger, un loup, ou tout autre animal, eh bien, on les éloigne avec des pierres et la fronde. Donc, il prend tout ça et il s'avance vers Goliath. Quand Goliath voit David s'approcher, évidemment, il le regarde avec dédain, avec mépris. Il lui dit, « Suis-je ?» Verset 43, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ce Dieu, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. » Il est maudit par ce Dieu, oubliant que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Il y a encore malheureusement des chrétiens aujourd'hui qui ont peur de la malédiction. Oh, cet oncle-là, tout ce qu'il dit finit par arriver. Il ne faut pas jouer avec cette tente. Attention, s'il vous tourne le dos, s'il enlève ceci, eh bien la malédiction tombe sur vous. Non, personne ne peut maudire celui qui est en Christ, car en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Oh, alléluia. N'ayons pas peur. Voyez-vous, personne ne peut vous menacer ou vous faire chanter. Tu vas voir la malédiction sur toi. Il faut simplement sourire. Car la personne qui tient de tels propos ne sait pas qui tu es. Oh, alléluia. Ces propos de malédiction n'ont pas eu d'effet. C'était de la part des idoles qui n'existaient pas. Et là, David lui répond. C'est là que l'histoire devient très, très intéressante. David dit au Philistin, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de troupes d'Israël que tu as mise au défi. Oh, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Et toute la terre reconnaîtra qu'il y a un Dieu en Israël. Que Israël a un Dieu. Toute la terre. Il parle de manière affirmative. Je te tuerai. Je te couperai la tête. Il est affirmatif, mes amis. Il ne doute pas. Il sait qui est avec lui. Il sait en qui il a confiance. Il sait que ce Dieu-là est avec lui. Ce Dieu qui avait travaillé avec lui à un moment de sa vie, eh bien, n'a pas changé. Il était avec lui. Alléluia. Et là, il ajoute, et toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, que l'Éternel délivre, que l'Éternel donne la victoire. Oh, alléluia. Car la bataille, le combat appartient à l'Éternel. Alléluia. Le combat lui appartient. Et les armes de Dieu sont des armes vivantes. Nous sommes appelés à être, mes amis, des outils vivants entre les mains du Seigneur pour la manifestation de sa gloire, pour la victoire du nom de Jésus sur cette terre. Et ne pouvons pas supporter le défi que le jeune David lance à Goliath, celui-ci se redresse et se met à marcher à la rencontre de David, pensant qu'il allait l'impressionner, pensant que tout cela, mes amis, ce n'était que de la jactance, des propos qui sortaient comme ça, creux. Non. Quand il s'avance vers David, eh bien, David aussi se lève et s'avance pour rencontrer le Philistin sur le champ de bataille. Et quand le Philistin s'approchant de plus en plus, et que lui s'approchant aussi, à un moment donné, eh bien, il va utiliser ce qu'il a. Qu'a-t-il ? Il a sa gypsière. Et dans sa gypsière, il y a quelques pierres. Qu'a-t-il ? Il a une fronde. Il met la main dans sa gypsière. Il prend une pierre. Il prend sa fronde. Alléluia. Et il lance cette pierre avec sa fronde. Et mes amis, cette pierre va être animée d'une puissance indescriptible. La pierre va agir comme un missile téléguidé. Rappelez-vous que l'homme géant, le Goliath, a un casque de bronze, n'est-ce pas ? Dont la tête est protégée. Mais ce qui vient de Dieu atteint toujours son objectif. Oh, alléluia. Ces missiles téléguidés au laser divin va être conduit jusqu'à la partie la plus importante, à savoir la tête. Et la pierre, mes amis, pénètre dans le front du Philistin. Le Philistin tombe KO. Ainsi nous dit la parole, verset 50, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que Goliath. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Gloire à Dieu. Mes amis, regardez comment, de quoi Dieu est capable. Avec un jeune, sans aucune expérience militaire, il va apporter la victoire en terrassant le géant et en créant, mes amis, la panique parmi les Philistins qui vont tous fuir et être poursuivis par les Israélites. La vie de David, comme celle de Shamgar, est l'illustration vivante de ce dont Dieu est capable de faire avec des simples vies, mais qui sont devenues, par sa grâce, des outils puissants entre ses mains pour relever tous ces défis qui se présentent à nous. Alléluia. David. Pour David, mes amis, la fronde et la pierre ont été les moyens. Voilà les moyens qu'il a utilisés, les moyens dont il s'est servi pour terrasser ce géant. Voilà donc ce qu'il a eu comme instrument entre ses mains pour tuer cet homme, ce géant, ce champion des Philistins, et mettre en débandade tous les Philistins. Mais pour Dieu, c'est David qui était l'instrument entre ses mains. Oh, alléluia. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme pour relever les défis qui se présentent à l'Église. Il y a tant de géants qui se dressent devant nous, que ce soit sur le plan conjugal, sur le plan de la famille, sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de l'Église. Nous sommes environnés de géants, nous sommes engagés dans une bataille, et quelquefois nous avons peur de relever les défis. Mais ce matin, sache mon frère et ma sœur, qu'avec Dieu, tout est possible. L'homme avec tout ne peut rien, mais Dieu sans rien peut tout. Il terrasse toute cette assemblée, a-t-il dit à cet incirconcis. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, délivre, accorde la victoire, car la bataille appartient. Le combat dans lequel tu te trouves lui appartient. Tu es son enfant. Ne tourne pas de regards inquiets. Ne regarde pas tes petits moyens en disant, mais voilà tout ce que j'ai. Je n'ai que 5 pains, je n'ai que 2 poissons. Eh bien, pour toi, c'est rien du tout. Mais 5 pains et 2 poissons peuvent arriver, mes amis, à nourrir des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Je cherche un homme dans cette confrontation entre Israël et à sa tête Saül et les Philistins avec leur champion Goliath. Pendant 40 jours où cet homme narguait, où cet homme toisait, où cet homme regardait avec dédain Saül et son peuple, pendant ces 40 jours, le Seigneur a commencé à chercher. Il n'a pas trouvé dans l'armée. Autrement, il aurait pu utiliser quelqu'un. Oui ou non? Il n'en a pas trouvé. Ils étaient tous là paralysés par la peur. Ils étaient tous là tétanisés, pétrifiés. Et là, le Seigneur va trouver quelqu'un. Un jeune homme derrière le troupeau de son père. Il va créer des circonstances pour que ce jeune-là, outil entre ses mains, puisse arriver sur le champ de bataille. Mes amis, le Seigneur reste et demeure le maître de temps et des circonstances. Il n'y a rien qui nous arrive au hasard. Ce jeune homme, lorsque son père le fait revenir en disant, écoutez, ça fait quelques jours que tes frères sont partis à la guerre, prends quelque chose, apporte-leur à manger et amène aussi quelque chose au roi. Ce jeune homme était loin de s'imaginer qu'il allait être un outil puissant entre les mains du Seigneur. Mes amis, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Des événements qui surgissent. Ne paniquons pas, ne disons pas, oh là là, papa, qu'est-ce que moi je vais faire là-bas? On a des serviteurs que tu peux envoyer, oui ou non? Comment tu m'envoies, moi? Moi, je m'occupe du troupeau et j'aime passer mon temps à jouer de l'harpe. En veillant sur le troupeau, j'aime passer mon temps à méditer, etc. Mais là, tu m'envoies, papa. Non, il a obéi. Et en obéissant, il va être un outil pour écrire une des plus belles pages de l'histoire d'Israël, sa victoire sur Goliath. C'est derrière le troupeau de son père que le Seigneur l'a trouvé. Où que tu sois, tu n'as pas besoin d'être derrière la chair pour être trouvé par Dieu. Non! Aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut absolument être pasteur pour pouvoir jouer un rôle dans la société. Il y en a qui pensent qu'il faille être absolument dans la politique pour jouer un rôle. Non! Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Laisse-le te tailler. Laisse-le te modeler et faire de toi un instrument pour sa victoire et pour sa gloire. Alléluia. Il a trouvé ce jeune homme. Et ce jeune homme a compté en tout sur le Seigneur et non pas sur ce qu'il avait entre ses mains. Le même David, avant de terminer, dira plus tard, au psaume 20, verset 8, « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. » Et j'ai envie de dire, « Et les autres encore sur leurs héros, sur leurs géants, sur leurs champions. » Mais nous, nous invoquons le nom du Seigneur de gloire, le nom de notre Dieu qui a vaincu à la croix. Et il plie et tombe. Mais nous, nous restons debout. Nous avançons et rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Dieu a besoin des outils dans notre génération. Cette génération qui est secouée de plus en plus par des antivaleurs. Cette génération qui baigne de plus en plus dans la corruption, dans l'idolâtrie, dans la rébellion verte vis-à-vis du Seigneur. Cette génération, mes amis, qui est sur une pente qui la conduit tout droit vers la ruine et la destruction. Comment arrêter cette génération sur cette pente, mes amis? Eh bien, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Puisses-tu être cet homme? Puisses-tu être cette femme? Peu importe ce que tu as. Quand il a appelé Gédéon, encore dans un contexte de combat et d'humiliation par rapport à cette coalition des Moabites et des Ammonites, Gédéon a dit au Seigneur, mais quelque part tu te trompes d'adresse. J'appartiens à une petite tribu, mon clan est insignifiant, ma famille, n'en parlons pas. Nous venons d'Ituri. À Kinshasa, il y a des gens qui appartiennent à des familles nobles, qui ont des noms, qui ont une généalogie à faire pâlir le diable. Et là, tu vas vers moi? Non, Seigneur, c'est pas possible. Et c'est là le Seigneur lui dira, je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Oh, alléluia. Va avec ton intelligence. Ne regarde pas aux autres en disant, eux, ils ont des diplômes. Non! Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a fait que l'école primaire pour en faire un outil de changement, pour en faire un guerrier redoutable. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alors, ne pense pas que c'est seulement les temps dans le ministère. Et d'ailleurs, le monde des ministères est de plus en plus envahi par des clochards spirituels, par des troubadours de tous bords, par des gens qui pensent qu'en se donnant des titres, ils impressionneraient le diable. Non. D'ailleurs, le diable sourit. Il vous voit comme des petits cabotins, des gens qui jouent du théâtre. Voilà. Quand tu t'es converti, le diable savait que tu étais là. Il t'a maintenu dans un état terrible, fumeur de chanvre, un petit drogué du quartier, partout tu passais, ben tu laissais que des traces terribles. Et puis le Seigneur met la main sur toi, tu changes, tu lui échappes demain. Mais il était là, non? Et puis tu as bien commencé, du jour au lendemain, tu attrapes le gros coup. Depuis que tu as appris à jeûner, à prier, tu penses que toi, c'est avec Dieu, c'est copain-copain. Tout de suite, tu deviens pasteur. 3 mois plus tard, évêque. 2 ans plus tard, te voilà apôtre. Eh bien, vous pensez que cela va impressionner le diable? Non. Au contraire, il t'encourage. Vas-y, petit. Aujourd'hui, tu es apôtre, demain, tu seras super apôtre. Il te propose des titres. Et comme les titres dans le Nouveau Testament sont limités, non? Par rapport au ministère, il te renvoie dans l'Ancien Testament. Tu deviens patriarche. Alors que tu n'as même pas 30 ans, tu deviens patriarche. Au bout de quelques temps, il dit non, bon, sacrificateur. Motumbimbeka. Il faut le dire en lingala, Motumbimbeka. Voilà. Là, quelqu'un tremble. Hein. Quoi? Motumbimbeka. Et là, souverain sacrificateur. Vous voyez? Là, le diable est content, petit, continue. Tu ne l'inquiètes pas du tout. Mais l'homme que Dieu travaille, où qu'il soit, Dieu le trouve. Quand le moment est arrivé, et je vais terminer par là, quand le moment est arrivé pour faire lever un instrument qui allait apporter le réveil en Israël, à un moment où le peuple s'est détourné de plus en plus du Seigneur pour s'attacher aux Astartés, aux Baal, à toutes ces idoles des Philistins, des Cananéens, le Seigneur a aussi fait le tour. Il a fait les portes à porte, d'abord dans Jérusalem, la grande ville. Le temple est là-bas. Et puis dans d'autres villes d'importance capitale, des villes qui sont omniprésentes dans l'histoire d'Israël. Il n'a rien trouvé. Et puis Dieu va traverser le Jourdain. Donc il va aller en Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain, donc à l'est du Jourdain. Et là, dans un petit village qui s'appelait Tishbé. Tishbé. Et là, à Tishbé, il va trouver qui? Élie. Et quand Élie monte sur la scène biblique, l'auteur qui nous relate l'histoire le décrit comme étant Élie le Tishbite. Et la version grecque d'ajouter le Tishbite de Tishbé. Voilà. Il y a des Kinois qui ne sont pas des Kinshasa. Hein. Bauta. Moi, je ne suis pas né ici, je suis arrivé. Beaucoup sont arrivés pour les études, Kabandela. Il était avec moi à Likasi. Il est devenu Kinois. Mais il y en a Tobotamawa. Yo, Botamawa. William. Moi, je suis Nipenda. Moi, je suis Malebo. Otanga. Na Kalina. Ah là, ils savent, hein. Kalina. Oh, chez les frères maristes, etc. Mais lui, il était le Tishbite, c'est vrai. Des Tiches. Qui pouvait s'imaginer? Pouvait-il venir quelque chose de bon? Quelque chose de puissant des Tishbé? Alors que tout le monde se serait attendu à ce que Dieu fasse lever quelqu'un depuis Hébron, depuis Bethléem, depuis Jérusalem, depuis d'autres grandes villes comme Jéricho, la cité des palmiers. Non, lui va dans un village, où que tu sois, si tu passes du temps avec Dieu, il fera de toi un instrument. Et tu seras prêt à affronter des géants et à t'impliquer activement dans le combat dans lequel l'Église est engagée. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, de nous avoir parlé encore une fois aujourd'hui par la vie, Seigneur, de ton serviteur David. Cet homme à propos duquel tu diras plus tard, homme selon ton cœur. Il n'a été qu'un simple outil entre tes mains. Cependant, un outil dont tu t'es servi pour accorder la victoire à Israël. Pour terrasser celui qui était considéré comme étant le champion des Philistins, leur héros. Merci, ô Dieu, de faire de nous, comme Shamgar et comme David, des outils entre tes mains. Et peu importe ce que nous avons entre nos mains, dès lors que nous devenons des outils entre tes mains, eh bien tout ce que nous avons deviendra, Seigneur, des armes puissantes pour mettre en déroute, Seigneur, nos adversaires. Mettre en déroute le diable. Ô Dieu, apprends-nous à nous abandonner entre tes mains, afin que tu puisses affiner nos vies, tu puisses nous modeler, nous tailler et faire de nous des outils, Seigneur, dont tu vas te servir dans notre génération pour la bénédiction des autres. Merci Seigneur. Merci aussi de bénir, Seigneur, les offrandes, ô Dieu, alors que les paniers vont circuler. Que tu bénisses tous ceux qui vont déposer leurs dîmes, leurs offrandes, ou alors l'enveloppe pour soutenir la construction du temple, du nouveau temple. Que tu bénisses chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.